Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, serviteuses et serviteurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le président indonésien Joko Widodo a affirmé que l'islam en Indonésie n'est pas l'islam radical. Le ministre indonésien des Affaires étrangères a inauguré un service consulaire en ligne à Londres. Le vice-président indonésien a reçu la visite du directeur général adjoint du FMI. L'ambassadeur Tantowi s'est rendu visite les trois ministres de la Nouvelle-Zélande pour clarifier les nouvelles sur l'Indonésie. L'Indonésie et Singapour sont prêtes à échanger des données fiscales. Les États-Unis se sont intéressés par le programme de déradicalisation de l'Indonésie. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le président indonésien Joko Widodo a affirmé que l'islam en Indonésie n'est pas l'islam radical. L'islam dans ce pays est l'islam maniéré et l'islam modéré qui sont enseignés par les ulémas. Cela a été dit dans un holakoh national Alim Ulama Majlis Zikir Hubul Waton jeudi à Jakarta. Le président a déclaré aujourd'hui, l'Indonésie devient un modèle d'autres nations dans le monde dans son succès de la gestion de la pluralité. La fierté, selon le président, est résultat de la direction qui est enseignée par les ulémas dans l'enseignement de l'islam qui donne la grâce au monde ou Ramadan lil alamin. Les ulémas ont également enseigné avec succès aux personnes afin qu'elles puissent être mises en œuvre sous la direction de la vie nationale et de l'État. Le président Joko Widodo a également mentionné que la direction des ulémas a également réussi à réaliser l'islam modéré et poli et n'est pas l'islam radical. Parce que selon le président, l'islam radical n'est pas l'islam qui existe en Indonésie.
Tuntunan yang diberikan oleh para ulama itulah yang menjadikan kita sampai sekarang ini. Alhamdulillah.
La demande des ulémas a fait les Indonésiens jusqu'à présent en harmonie dans la diversité basée sur la religion pour créer l'islam étant wasatia, maniéré et poli. Il n'est pas l'islam violent, radical. L'islam radical n'est pas l'islam du Conseil des ulémas indonésiens. L'islam radical n'est pas l'islam qui existe en Indonésie. Le président Joko Widodo a également dit que Pancasila comme l'idéologie de la nation ne pouvait pas être contestée et peut également être séparée avec l'islam. Cela est montré dans le premier principe de Pancasila qui reconnaît et respecte les valeurs de la divinité et les valeurs religieuses. À cette occasion, le président a également invité tous les musulmans à revenir à l'esprit d'assistance mutuelle dans tous les aspects de la vie afin de réaliser le souverain indonésien, la personnalité juste et prospère. La ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a inauguré le lancement du service consulaire en ligne de l'ambassade d'Indonésie à Londres dans le but de donner le service d'excellente qualité, efficace et efficient à l'ambassade d'Indonésie à Londres le jeudi. Le lancement de l'inauguration du service consulaire en ligne et commencé avec le discours de l'ambassadeur d'Indonésie à Londres, M. Rizal Sukma. Selon lui, le service consulaire en ligne, afin de faciliter un meilleur service aux citoyens de l'Indonésie qui vivent au Moyen-Orient, ainsi que le public britannique en général. Le ministre conseiller de l'ambassade d'Indonésie à Londres, M. Thomas Siregar, a dit à Antara Londres le jeudi que l'ambassadeur Rizal Sukma espère le service consulaire de l'ambassade d'Indonésie à Londres plus optimal. Le ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a remercié les efforts déployés par l'ambassade d'Indonésie à Londres pour améliorer les services consulaires. Cette innovation, elle reflète l'engagement du gouvernement de l'Indonésie, continue d'améliorer et d'optimiser les efforts et la protection des services aux citoyens. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le vice-président Yusuf Kalla a reçu la visite du directeur général adjoint du FMI, Mitsuhiro Furusawa, jeudi à Jakarta. Il a dit qu'il a discuté de l'économie mondiale, l'économie indonésienne et la coopération entre l'Indonésie et le FMI. Selon lui, la croissance économique de l'Indonésie est assez bonne, notamment la déréglementation et la réforme bureaucratique. Alors, la cible de 5,2% de croissance est encore possible d'atteindre. Le gouvernement propose la croissance économique atteindre 5,2% dans le projet de budget de l'État amendement 2017. Ce chiffre est plus élevé que l'hypothèse initiale dans le budget de l'État 2017 de 5,1%. Cependant, le vice-président Yusuf Kalla a déclaré que la réunion n'avait pas mentionné sur l'offre de la dette ou emprunt du FMI. Au cours des trois dernières semaines, l'ambassadeur d'Indonésie en Nouvelle-Zélande, M. Tantowi Yahya, s'est rendu visite, une visite de courtoisie, au ministère des Affaires étrangères de la Nouvelle-Zélande. Le ministre de néo-zélandais de l'engagement supérieur et le procureur général de la Nouvelle-Zélande. Comme rapporté l'agent de Nouvelle Radio Nationale jeudi, Tantowi Yahya a expliqué que le sujet de discussion dans la réunion avec le ministre néo-zélandais des Affaires étrangères, Gary Brownie, et l'engagement des deux pays à augmenter le flux de nouvelles et d'informations réelles et factuelles, notamment les nouvelles liées au département en Indonésie, si bien qu'il y a encore des citoyens de la Nouvelle-Zélande qui obtiennent de vieilles nouvelles ou même hoax. Il était sûr que si la coopération dans les domaines de l'information augmente, la question du pays comme Papouasie sera plus facile à comprendre. Cependant, lors de sa rencontre avec le ministre de l'Enseignement supérieur de la Nouvelle-Zélande, Paul Goldschmidt, Tantowi a déploré la persistance des activités non académiques au campus, comme la campagne politique et les discussions inégales liées aux questions de Papouasie. Lors de la rencontre avec le procureur général de la Nouvelle-Zélande, Christopher Finlayson, qui est aussi le chef de l'agence de l'enseignement et le ministre des Affaires étrangères de la Nouvelle-Zélande, Tantowi a exprimé son appréciation pour l'attitude politique de la Nouvelle-Zélande sur la question de séparatisme qu'il a considéré comme un problème interne et peut être résolu par l'Indonésie. L'Indonésie et Singapour sont prêtes à échanger des informations financières pour l'imposition ayant d'entrée effectivement à l'ère ouverte de l'information financière qui sera commencée en 2018. La ministre indonésienne des Affaires et Finances, Sri Mulyani Indrawati, à Jakarta, a annoncé mercredi Singapour était l'un des principaux objectifs du pays partenaire de la coopération parce que la grande valeur des biens et les actifs des contribuables indonésiens qui sont stockés dans ce pays voisin. Le ministère des Finances a noté de 250 milliards de dollars américains, soit environ 3 250 millions de rupiahs, des actifs de personnes qui ont des recherches très élevées de l'Indonésie à l'étranger, à savoir qu'il y a environ 200 milliards de dollars américains, soit environ 600 millions de rupiahs stockés à Singapour. Sri Mulyani a confirmé que sa partie continuerait à faire l'approche pour mettre en œuvre de la divulgation de l'information financière à tous les pays. Les États-Unis se sont intéressés par le programme de déradicalisation fait par l'Indonésie pour résoudre la question du radicalisme et du terrorisme, comme cité du communiqué de presse reçu par l'agence de nouvelles Antara mercredi. Le chef de l'Agence nationale de lutte contre le terrorisme, Suhadi Alius, a déclaré que cet intérêt a été exprimé par l'assistance spéciale du président américain pour la sécurité nationale et la lutte contre le terrorisme, M. Thomas P. Bossert. Cette réunion étant suivie de la réunion précédente entre la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Ratna Marsudi, et Thomas P. Bossert en juin. Suhadi Alius a affirmé à Bossert sur l'importance des efforts à équilibrer l'utilisation du modèle d'approche dure et l'approche douce dans la lutte contre le terrorisme. Ainsi, surtout dans une approche douce, l'Indonésie était relativement efficace dans le programme de déradicalisation. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère qu'il est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosemar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosemar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglosemar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, voici donc le commentaire et pour le titre, Conférence ministérielle de l'OCI en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays en Afrique de l'Ouest, était l'hôte de la 44e conférence ministérielle de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, qui a eu lieu du 10 au 11 juillet 2017 dans la ville d'Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire. Le thème de cette conférence est la jeunesse, la paix et le développement dans un monde de solidarité. Pourquoi ce thème a discuté dans cette conférence? Les membres de l'OCI ont convenu que le rôle des jeunes est très important pour faire face aux défis du monde d'aujourd'hui et à l'avenir, tels que la menace de l'extrémisme dans divers États, le terrorisme et le radicalisme. Que faut-il faire pour que les jeunes ne soient pas coincés sur les choses qui détruisent l'avenir de la civilisation humaine? L'éducation est considérée comme la solution pour lutter contre ces trois questions, soutenue par l'enseignement sur les valeurs de la tolérance, le respect mutuel et l'appréciation de la paix. En outre, la 44e conférence ministérielle de l'Organisation de la coopération islamique a discuté de la question de la Palestine. Le programme d'action de l'OCI en 2025, la minorité musulmane, les droits de l'homme et humanitaires, ainsi que le commerce et les technologies de l'information. La conférence ministérielle de l'OCI est le forum annuel des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OCI pour évaluer les progrès dans la mise en œuvre de la politique énoncée dans le sommet des chefs d'État membres. Dans cette conférence, l'Indonésie a soulevé la question du groupe de contact sur la paix et la résolution des conflits. L'Indonésie utilise ce forum pour encourager l'achèvement de différents conflits, en particulier au Moyen-Orient. La solution qui a été proposée par l'Indonésie dans ce forum est d'encourager les pays membres de l'OCI d'unir et d'ouvrir le dialogue pour résoudre le problème au Moyen-Orient, y compris d'encourager la coopération pour résoudre le problème. Nous souhaitons que la proposition indonésienne puisse être réalisée sous la forme d'une résolution du règlement du problème. Nous ne voulons pas que cette réunion seulement une variété de récits et le discours qui ne contribuent pas à la solution pour lutter contre le terrorisme, la diminution du niveau de radicalisme et l'extrémisme. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 14 juillet. Le premier, le 14 juillet 1958, le roi Faisal II est mort dans le coup d'État par les nationalistes arabes et Abdul Karim Qassem devenait nouveau dirigeant de l'Irak. Le roi Faisal II était un roi qui a régné en Irak entre 1939 à 1958. Faisal a 3 ans lorsque le 4 avril 1939 a été couronné roi de l'Irak après la mort du père Ghazi dans un accident de voiture. Entre le 4 avril 1939 au 2 mai 1953, son oncle Abdulillah devenait tuteur du roi jusqu'à l'âge Faisal est tassé. De la date 2 mai 1953, Faisal II avait obtenu un contrôle complet. Faisal a fait ses études à Harrow School of Royaume-Uni. En 1958, des émeutes ont éclaté en Irak, qui a éclaté la révolution sous la direction de Abdul Karim Qassem. Le 14 juillet 1958, le roi Faisal est mort dans cette révolution. Faisal II fut le dernier roi d'Irak. Ensuite, le 14 juillet 1960, le lancement de l'opération des Nations Unies à Congo. Les Nations Unies ont envoyé ses forces militaires au Congo où les tensions augmentaient. Les tensions ont éclaté après que le Congo a obtenu son indépendance du royaume de Belgique. Les tensions sont intensifiées après l'arrivée des troupes belges. Voyant la menace, le premier ministre du Congo, Patrice Lumumba, a demandé l'aide des Nations Unies d'intervenir immédiatement. Puis l'ONU a effectué des opérations au Congo et a envoyé 20 000 personnels militaires en même temps chargés d'assurer le bon déroulement du retrait des troupes belges. La tension est augmentée lorsque Patrice Lumumba, à son tour, sera capturé et tué. Nous terminons avec le 14 juillet 2004. Hugeng Imam Santoso est morte. Hugeng Imam Santoso est l'un des figures de la police indonésienne. Il est mort le 14 juillet 2004 en raison de la maladie. Au cours de l'occupation japonaise, Hugeng n'a jamais suivi une formation militaire nippon en 1942 et Koto Keisatsu Kaikai 1943. En 1944, Hugeng est nommé chef adjoint de la police section 2 Jomblang-Semarang et commandant de la mer de Java Central de la police militaire 1945-1946. Lorsque Hugeng est servi en tant que chef de la police, qui a d'abord effectué et remanié la structure organisationnelle au niveau du siège de la police. En conséquence, la nouvelle structure semble plus dynamique et communicative. En second lieu, il est question d'un changement de nom et le siège de la direction de la police. Sous la direction de Hugeng et la participation de la police d'Indonésie sur la carte de l'Organisation internationale de police, l'Organisation internationale de police criminelle est de plus en plus active. Elle a été marquée par l'ouverture du secrétariat du Bureau central national d'Interpol à Jakarta. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers auditeurs, voici donc le programme suivant, la mise au point, et pour le titre, le gouvernement a contrôlé les importations à haut risque. Le gouvernement s'efforce de contrôler l'importation à haut risque pour créer des pratiques des affaires propres équitable et transparent en Indonésie. Pour le réaliser, le ministère des Finances, via la Direction générale des douanes, conçoit le groupe de travail de contrôle des importations à haut risque comme une forme des activités opérationnelles. Le groupe de travail qui sera formé implique entre autres le ministère de la Coordination des Affaires économiques, le Bureau des personnels présidentiels, l'éradication de la corruption, la Commission de l'éradication de la corruption, la police de la République d'Indonésie, les forces armées indonésiennes, le procureur général ainsi que le centre des rapports et d'analyse sur les transactions financières ou PPATK. Comme l'a déclaré la ministre des Finances, Sri Mulyani, dans une conférence de presse après une réunion de coordination avec les dirigeants de cette institution mercredi, publiée par le quotidien Média Indonesia. L'importation à haut risque est l'importation illégale, si bien qu'elle peut nuire à la compétitivité de l'industrie nationale parce que le prix des produits est plus cher que les produits importés illégalement. Selon le directeur général des douanes, Heru Pambudi, les catégories de produits vulnérables à haut risque sont le textile, l'électronique et l'alcool. La ministre Mulyani a dit « Les synergies entre les institutions membres du groupe de travail est essentielle de resserrer la supervision » et de réaliser le succès du contrôle. Il est également un signal à la personne qu'il n'y a plus d'un écart qui pourrait être exploité. Sri Mulyani a confirmé, sa partie ne peut pas travailler seule. Elle coordonne les uns avec les autres et fournit un signal aux employeurs qui veulent bien servir dans l'accomplissement des activités économiques légales. C'est pourquoi sa partie améliorera le système le comportement des officiers et leur performance. Sri Mulyani espère qu'avec le contrôle des importations à haut risque, le volume de la circulation des marchandises illégales pourrait diminuer, si bien qu'il y a le déficit d'approvisionnement qui peut être satisfait par la production nationale afin que les recettes de l'État soient plus optimales et encouragent l'économie nationale. Chers auditeurs, c'était la mise au point pour ce soir.
Le président indonésien Joko Widodo a affirmé que l'islam en Indonésie n'est pas l'islam radical. L'islam dans ce pays est l'islam maniéré et l'islam modéré qui sont enseignés par les ulémas. Cela a été dit dans un holakoh national Alim Ulama Majlis Zikir Hubul Waton jeudi à Jakarta. Le président a déclaré aujourd'hui « L'Indonésie devient un modèle d'autres nations dans le monde » dans son succès de la gestion de la pluralité. La fierté, selon le président, est résultat de la direction qui est enseignée par les ulémas dans l'enseignement de l'islam qui donne la grâce au monde ou Ramadan lil alamin. Les ulémas ont également enseigné avec succès aux personnes afin qu'elles puissent être mises en œuvre sous la direction de la vie nationale et de l'État. Le président Joko Widodo a également mentionné que la direction des ulémas a également réussi à réaliser l'islam modéré et poli et n'est pas l'islam radical, parce que selon le président, l'islam radical n'est pas l'islam qui existe en Indonésie.
Tuntunan yang diberikan oleh para ulama itulah yang menjadikan kita sampai sekarang ini, alhamdulillah.
La demande des ulémas a fait les Indonésiens jusqu'à présent en harmonie dans la diversité basée sur la religion pour créer l'islam étant wasatiyah, maniéré et poli. Il n'est pas l'islam violent, radical. L'islam radical n'est pas l'islam de conseil des ulémas indonésiens. L'islam radical n'est pas l'islam qui existe en Indonésie. Le président Joko Widodo a également dit que Pancasila comme l'idéologie de la nation ne pouvait pas être contestée et peut également être séparée avec l'islam. Cela est montré dans le premier principe de Pancasila qui reconnaît et respecte les valeurs de la divinité et les valeurs religieuses. À cette occasion, le président a également invité tous les musulmans à revenir à l'esprit d'assistance mutuelle dans tous les aspects de la vie afin de réaliser le souverain indonésien, la personnalité juste et prospère. La ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a inauguré le lancement du service consulaire en ligne de l'ambassade d'Indonésie à Londres dans le but de donner le service d'excellente qualité, efficace et efficient à l'ambassade d'Indonésie à Londres le jeudi. Le lancement de l'inauguration des services consulaires en ligne est commencé avec le discours de l'ambassadeur d'Indonésie à Londres, M. Rizal Sukma. Selon lui, le service consulaire en ligne, afin de faciliter un meilleur service aux citoyens de l'Indonésie qui vivent au Moyen-Orient, ainsi que le public britannique en général. Le ministre conseiller de l'ambassade d'Indonésie à Londres, M. Thomas Siregar, a dit à Antara Londres le jeudi que l'ambassadeur Rizal Sukma espère le service consulaire de l'ambassade d'Indonésie à Londres plus optimal. Le ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a remercié les efforts déployés par l'ambassade d'Indonésie à Londres pour améliorer les services consulaires. Cette innovation, elle reflète l'engagement du gouvernement de l'Indonésie, continue d'améliorer et d'optimiser les efforts et la protection des services aux citoyens. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le vice-président Yusuf Kalla a reçu la visite du directeur général adjoint du FMI, Mitsuhiro Furusawa, jeudi à Jakarta. Il a dit qu'il a discuté de l'économie mondiale, l'économie indonésienne et la coopération entre l'Indonésie et le FMI. Selon lui, la croissance économique de l'Indonésie est assez bonne, notamment la déréglementation et la réforme bureaucratique. Alors, la cible de 5,2% de croissance est encore possible d'atteindre. Le gouvernement propose la croissance économique atteindre 5,2% dans le projet de budget de l'État amendement 2017. Ce chiffre est plus élevé que l'hypothèse initiale dans le budget de l'État 2017 de 5,1%. Cependant, le vice-président Youssef Kalla a déclaré que la réunion n'avait pas mentionné sur l'offre de la dette ou emprunt du FMI. Au cours des trois dernières semaines, l'ambassadeur d'Indonésie en Nouvelle-Zélande, M. Tantowi Yahya, s'est rendu visite, une visite de courtoisie au ministère des Affaires étrangères de la Nouvelle-Zélande. Le ministre de néo-zélandais de l'engagement supérieur et le procureur général de la Nouvelle-Zélande. Comme rapporté l'agent de Nouvelle Radio Nationale jeudi, Tantowi Yahya a expliqué que le sujet de discussion dans la réunion avec le ministre néo-zélandais des Affaires étrangères, Gary Brownie, et l'engagement des deux pays a augmenté le flux de nouvelles et d'informations réelles et factuelles, notamment les nouvelles liées au département en Indonésie, si bien qu'il y a encore des citoyens de la Nouvelle-Zélande qui obtiennent de vieilles nouvelles ou même hoax. Il était sûr que si la coopération dans les domaines de l'information augmente, la question du pays comme Papouasie sera plus facile à comprendre. Cependant, lors de sa rencontre avec le ministre de l'Enseignement supérieur de la Nouvelle-Zélande, Paul Goldsmith, Tantowi a déploré la persistance des activités non académiques au campus, comme la campagne politique et les discussions inégales liées aux questions de Papouasie. Lors de la rencontre avec le procureur général de la Nouvelle-Zélande, Christopher Finlayson, qui est aussi le chef de l'agence de l'enseignement et le ministre des Affaires étrangères de la Nouvelle-Zélande, Tantowi a exprimé son appréciation pour l'attitude politique de la Nouvelle-Zélande sur la question de séparatisme, qu'il a considéré comme un problème interne et peut être résolu par l'Indonésie. L'Indonésie et Singapour sont prêtes à échanger des informations financières pour l'imposition ayant d'entrée effectivement à l'ère ouverte de l'information financière qui sera commencée en 2018. La ministre indonésienne des Affaires et Finances, Sri Mulyani Indrawati, à Jakarta, a annoncé mercredi que Singapour était l'un des principaux objectifs du pays partenaire de la coopération parce que la grande valeur des biens et les actifs des contribuables indonésiens qui sont stockés dans ce pays voisin. Le ministère des Finances a noté de 250 milliards de dollars américains, soit environ 3 250 trillions de rupiah, des actifs de personnes qui ont des richesses très élevées de l'Indonésie à l'étranger, à savoir qu'il y a environ 200 milliards de dollars américains, soit environ 600 trillions de rupiah stockés à Singapour. Sri Mulyani a confirmé que sa partie continuerait à faire l'approche pour mettre en œuvre de la divulgation de l'information financière à tous les pays. Les États-Unis se sont intéressés par le programme de déradicalisation fait par l'Indonésie pour résoudre la question du radicalisme et du terrorisme, comme cité du communiqué de presse reçu par l'agence de nouvelles Antara mercredi. Le chef de l'Agence nationale de lutte contre le terrorisme, Suhadi Alius, a déclaré que cet intérêt a été exprimé par l'assistance spéciale du président américain pour la sécurité nationale et la lutte contre le terrorisme, M. Thomas P. Bossert. Cette réunion étant suivie de la réunion précédente entre la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Ratna Marsudi, et Thomas P. Bossert en juin. Suhadi Alius a affirmé à Bossert sur l'importance des efforts à équilibrer l'utilisation du modèle d'approche dure et l'approche douce dans la lutte contre le terrorisme. Ainsi, surtout dans une approche douce, l'Indonésie était relativement efficace dans le programme de déradicalisation. Chers amis, c'était le journal de la voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère qu'il est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosemar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosemar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglosemar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec le magazine culturel. Cette fois, nous vous invitons à visiter le parc marin Olele en province Gorontalo, Sulawesi. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, La Voix d'Indonésie. Gorontalo est une nouvelle province à l'île Sulawesi. Ces derniers temps, le gouvernement local commence à promouvoir agressivement les coutumes, la culture et la beauté naturelle appartenant à la province Gorontalo pour qu'elle soit connue et prête à accepter les touristes locaux et étrangers. La province Gorontalo favorise la richesse de la vie marine qui se trouve sous les eaux côtières. Le parc marin Olele est situé au village Olele, sous-district Kabila Bone, en région Bone Bolango. La distance du centre-ville Gorontalo à ce parc marin est environ 20 km et on nécessite environ 30 à 45 minutes. Ce site touristique est accessible par un véhicule à 2 ou 4 rues. En passant à travers des roues tortueuses sur le bord de la colline. Sur le chemin, vous passez la route sinueuse traversant les résidences du peuple avec des paysages contrastés. D'une part, vous serez surpris par les falaises abruptes et boisées et d'autre part, vous serez émerveillé par l'étendue de la mer bleu-vert indéfiniment. La plage Olélé est la porte d'entrée vers le parc marin Olélé avec une très belle nature marine. Les plongeurs du monde ont prouvé que la majorité de la vie marine qui se trouve dans le parc marin Olélé ne se trouve pas dans d'autres eaux. Le parc marin Olélé offre beaucoup de beauté, dont il y a guajin avec des poissons d'ornement, la vie marine, les récifs coralliens sans dents sébiles, éponges géants et aussi certains types de poissons qui sont rares et ne se trouvent que dans les eaux du golfe de Tomini. À l'heure actuelle, le parc marin Olélé, qui devient l'icône touristique de la province Gorontalo, est situé sur la côte sud. Si vous voulez visiter Gorontalo, n'oubliez pas de visiter cet endroit. La plage Olélé a également gagné le surnom prima donna de la plage sud. Lorsque vous êtes plongé en apnée au parc marin Olélé, vous pouvez voir les récifs de corail rares qui ressemblent à des œuvres de sculpture de Picasso de l'Italie, de sorte que les habitants appellent par récif corallien Picasso. Et si vous êtes chanceux, vous pouvez rencontrer les mammifères marins et les dauphins. Lorsque la plongée en apnée, il faut aussi faire attention aux piqûres de méduses, car il peut provoquer des démangeaisons. Les méduses sont attrayantes et colorées, en particulier lorsqu'elles sont exposées à la lumière du soleil. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas des plongeurs, ne vous inquiétez pas, parce que le bateau en bois vitré fait par les habitants est prêt de prendre les touristes à voyager aux eaux pour profiter de la beauté des récifs coralliens, les poissons et les autres biotes du bateau. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir. Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur et en pour titre un mouvement d'un million de tasses de café de Flores. Serviteurs, après le succès du premier tour de Flores au TDF en 2016, cette année, le deuxième tour de Flores organisera une compétition cycliste internationale du 14 au 19 juillet 2017. La fermeture de TDF est le 18 juillet 2017 à 14h heure locale. Les gens et les participants boivent le café en rassemblant. La course cycliste internationale, le deuxième tour de Flores au TDF qui aura lieu du 14 au 19 juillet 2017 à une distance d'environ 200 km. Le but du TDF est de promouvoir le tourisme à Flores et il y a beaucoup de choses qui deviennent les cibles. L'un d'entre eux est d'introduire le café de Flores à travers un mouvement d'un million de tasses de café de Flores ou STKF. Ce mouvement vise à accroître le potentiel du café de Flores au niveau mondial pour être mieux connu et apprécié. L'un des comités d'organisation du mouvement de ST Café, Jos Kellen, expliquait qu'il y avait 9 raisins qui ont participé à ce mouvement. Ils sont les raisins de l'Est de Flores, Ende, Sika, l'Ouest de Manggarai, l'Est de Manggarai, Manggarai, Ngada, Nagekeo et Lembata. Le café de Flores est connu comme café savoureux et délicieux car il est planté sur 500 mètres à plus de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer. En obtenant la lumière directe du soleil presque pour toute l'année, Les plants de café dans le Forez produisent une bonne photosynthèse, donc le café de Forez est toujours recherché par de nombreuses personnes. Certaines régions de Forez, en particulier Badjawa ou la résidence de Ngada, Manggarai, Buawaye ou la résidence de Nagekeo, Elio ou la résidence d'Ende, deviennent des centres de production de café robusta et arabica. Chers auditeurs, selon l'histoire, Flores a la tradition ou l'habitude de servir le café pour les invités. À Manggarai, il y a un thème de kopi mané qui peut être traduit en café de l'après-midi. Cela signifie que le café est une boisson obligatoire pour les gens de Manggarai dans l'après-midi. Kopi mané décrit l'amitié dans une atmosphère de boire le café, c'est-à-dire le café est l'identité ou l'élément inséparable de la vie et de la culture des gens de Flores. Un mouvement d'un million de tasses de café de Flores est l'élan pour présenter au monde l'existence d'un café de Flores à la qualité d'exportation. En plus de devenir la consommation domestique, ce café peut être consommé par la communauté mondiale des amateurs de café. J'espère que ce mouvement est destiné à poursuivre non seulement le record de Mouri sous la forme d'un certificat, mais aussi de dire au monde que le café de Flores est en fait une qualité d'exportation, la délicieuse et la joie incomparable. Le café de Flores vaut la peine d'être vendu et saché par les amateurs de café dans les supermarchés, Starbucks, etc. Chers auditeurs, c'est l'Indonésie encore pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère que les amusants et stimulants. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosemar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosemar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglosemar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers amis, voici le magazine de musique de la Voix de l'Indonésie édition de vendredi. Et pour ce soir, on parle de musicien ainsi que chanteur Irfan Mansour. Et vous savez, Irfan Mansour est connu dans la musique du rythme de dangdut, la musique qui est très populaire de tel ou tel niveau en Indonésie. Bon, chers amis, comme le début de notre rencontre, allez écouter la première chanson de Irfan Mansour intitulée Grimis. Bonne écoute. Chers amis, Irfan Mansour, il est né au 30 novembre 1974. Outre de chanter, il est aussi compositeur. Comme le fils de Mansour S, il a la voix si douce comme son père. Son père, Mansour S, est très connu comme chanteur de rythme de dangdut depuis aux années 80. Irfan Mansour est aussi animé dans certains programmes de musique de dangdut et d'autres musiques à certaines chaînes télévisées. Irfan Mansour a réussi à faire un album duo avec la chanteuse Emilia. Pour Emilia, c'est la première fois de produire le rythme de dangdut et elle est ravie de faire duo avec Irfan Mansour. Chers amis, allez écouter encore la deuxième chanson de Irfan Mansour intitulée « Kemana, dimana ». Bonne écoute.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie. Présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia
et Twitter Voix Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.